Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
4 jours après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le centre-est de la France, les crues et les inondations ont laissé place à des scènes de chaos. Arbres déracinés, voitures retournées, habitations complètement dévastées, comme celle de cet habitant de Limony en Ardèche, l'un des départements les plus touchés.
Bah regardez, vous pouvez constater, hein. C'est monté à une vitesse grand V, hein. En 10 minutes, un quart d'heure, j'avais plus de voiture, plus rien.
Et quand j'ai ouvert la fenêtre, ben, l'eau commençait à rentrer.
Et l'eau est montée jusqu'ici, et après l'hélicoptère est arrivé.
Des hélitreuillages ont permis de sauver des habitants, parfois retranchés sur le toit de leur maison. En Ardèche, mais aussi dans la Loire, en Haute-Loire et dans le Rhône, l'épisode pluvieux et les crues ont tout emporté sur leur passage, même le bétail.
Et vache, elle passe un seul quart d'heure, nom de Dieu.
Les pluies diluviennes et les inondations ont endommagé des ponts et perturbé les transports, notamment l'autoroute A47 et la liaison ferroviaire Lyon-Saint-Étienne. Des records de précipitations ont été battus.
600 mm qui sont tombés à certains endroits, c'est l'équivalent des précipitations de toute une année sur Paris. C'est donc un épisode inédit par son ampleur et qui est sans doute une expression du dérèglement climatique.
Avec le réchauffement de la planète, l'océan laisse plus d'eau s'évaporer. Les masses d'air deviennent plus chargées en humidité, entraînant des précipitations plus importantes. Les épisodes de crues et d'inondations se multiplient. La commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses en Île-de-France vient d'être touchée pour la 2e fois en quelques jours.
Il y a des bassins de rétention en amont, ça n'a pas servi. Il y a des bassins de rétention en aval, ça n'a pas servi. Vu les quantités d'eau tombées, je ne vois pas comment on peut changer ça, quoi.
Alors peut-on endiguer la répétition de ces phénomènes météo soudains et dévastateurs ? Comment repenser l'aménagement du territoire face à ces aléas climatiques ?
Qu'en pensent nos 3 invités ? Gaëlle Musquet, bonsoir. Vous êtes météorologue, spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles. Selon vous, il va falloir apprendre à vivre avec des inondations de cette ampleur. Les collectivités vont devoir faire des travaux d'aménagement si les maires ne font pas le boulot, ajoutez-vous. On se retrouvera dans quelques années dans la même situation. À côté de vous, Amandine Richaud-Crambe, bonsoir madame. Vous êtes urbaniste, ingénieure en environnement. Selon vous, le problème, c'est qu'on artificialise toujours plus les sols, qu'on bâtit toujours plus près des rivières, donc dans des zones inondables. Et si cela a été détruit, il ne faut pas reconstruire au même endroit. Et enfin, Sébastien Martin, bonsoir monsieur, président d'Intercommunalité de France et du Grand Chalon, c'est en Saône-et-Loire, dans le 71, n'est-ce pas ? Vous êtes un ancien membre du Parti Les Républicains, proche de Xavier Bertrand. Et selon vous, on peut toujours chercher des coupables après telle catastrophe, mais c'est une perte de temps de chercher des coupables. Il vaut mieux chercher des solutions et il faut s'inspirer des anciens, car on ne pourra pas tout raser pour s'adapter. Alors, on y viendra dans la 3e partie de cette inspiration à chercher du côté des anciens. Mais d'abord, Benjamin, le chiffre du jour.
870 mm de pluie sont donc tombés en France en moyenne depuis le 1er janvier. 240 mm de plus que la normale, soit 38% de plus. C'est énorme. Pour avoir une idée de ce que ça représente, c'est l'équivalent de 5 grandes baignoires remplies d'eau déversées sur une surface de 1 mètre carré. Gaëlle Musquet, ça nous impressionne. Est-ce que c'est vraiment inédit?
Alors, on a battu des records cette semaine, la semaine dernière aussi sur l'épisode Kirk. Ça, c'est inédit dans certaines collectivités. On a connu d'autres épisodes. Mm-hmm. Il faut aussi voir d'où on vient. Dans les années 50, les années 90, début des années 2002, Roselyne Bachelot, alors ministre de l'écologie, qui était déjà au chevet des sinistrés du Gard. C'est plusieurs dizaines de morts à chaque fois, ce type d'épisode. Aujourd'hui, on a progressé. Les maires ont progressé sur la prévention et la préparation de leur population. On a aussi progressé sur les systèmes d'alerte, ce qui permet, et ça, il faut en être conscient, de préserver, c'est le plus important, les vies. Mmh. Évidemment, les biens aussi. C'est l'objectif aussi des vigilances, hein, c'est les personnes et les biens, ce qui permet derrière de mettre des budgets sur la reconstruction et permettre à ces collectivités de se rétablir.
Amandine Richaud-Crambe, un quart des Français sont aujourd'hui soumis à des risques d'inondation. Pour vous, il y a un lien avéré avec le changement climatique ?
Alors, pas qu'avec le changement climatique, il y a un lien avéré aussi avec l'aménagement du territoire, car il faut avoir en tête que, clairement, depuis des décennies maintenant, on a aggravé ces risques d'inondation avec la façon dont on a aménagé. Mmh. De plus, c'est-à-dire que déjà qu'on a un manque d'adaptation aujourd'hui et ces inondations, hein, comme M. Musquet l'a rappelé, il y en a eu plusieurs, il y a eu des catastrophes, même si elles ne sont pas de cette ampleur-là et pas autant étalée sur l'ensemble du territoire. Cependant, de fait, avec le changement climatique, ça va être de moins en moins adapté. Et notamment, Météo France le dit aussi, hein, sur, si on prend les trajectoires et les scénarios du GIEC, partons à du plus 4, hein, parce que malheureusement, c'est de ça dont on parle
au niveau du
de la température, tout à fait. Ben, ces épisodes
tous les territoires sont concernés, on le voit sur la carte.
Tout à fait. Hein, ces épisodes qu'on pouvait appeler décennales ou bicentennales, eh ben, du décennal, typiquement, ça va être 2 à 3 fois plus souvent. Donc, on n'est plus sur du décennal, ça va être très, très régulier.
Et des épisodes plus violents aussi, de plus en plus violents.
Exactement, c'est ce qui a été dit aussi dans votre introduction. Réchauffement climatique, c'est aussi qu'on n'a jamais enregistré des températures aussi hautes dans le monde. Cette année, les océans se réchauffent.
La plus grosse de vapeur.
Température jamais enregistrée, plus de vapeur, effectivement, ça s'accumule, et ben, à un moment donné, ça retombe, et d'une façon toujours plus violente.
Sébastien Martin, les communes de France ont manqué de prévoyance?
Je ne sais pas si les communes de France, en tout cas, ont manqué de prévoyance. La réalité, c'est qu'on ne peut plus penser l'aménagement du territoire aujourd'hui comme on le pensait sans doute il y a 50 ans, et où on pensait que la technique pouvait répondre à toutes les préoccupations. Moi, je me souviens, dans mon propre territoire, j'avais découvert, au lendemain d'une inondation, dans une commune, qu'on avait détourné un cours d'eau en lui faisant prendre un virage à angle droit. Bon, eh bien, il ne faut pas s'étonner si régulièrement... le quartier qui était à côté était inondé. Et depuis, on a corrigé ça pour faire reprendre un cycle plus normal au cours d'eau. Et je pense qu'aujourd'hui, les solutions techniques, aujourd'hui, elles existent. Et elles ne sont pas toujours compliquées, d'ailleurs.
Alors, il y a certains politiques qui demandent des comptes à Météo France, comme David Lisnard, président de l'Association des maires de France, mais aussi maire de Cannes, qui a récemment été frappé par des inondations, là aussi très impressionnantes. Vous voyez ce qu'il dit, quand bien même nous savons tous que la météorologie n'est jamais une science exacte, il est difficile de comprendre qu'en 2024, une telle marge d'erreur soit possible dans les prévisions. Il demande donc un audit de Météo France. Il a signé pour cela une tribune dans la presse. Gaël Musquet, ben vous êtes directement concerné, hein. Vous êtes météorologue, vous entendez ces accusations là des politiques?
On peut toujours chercher des responsables. Moi, ce que je vois et ce que j'observe du terrain, de ce que je connais aussi, parce que c'est son ancien collègue du ministère de l'écologie, ce sont des passionnés, ce sont des hommes et des femmes qui sont au quotidien impliqués aujourd'hui. Il faut comprendre aussi que l'on est aux limites, on est aux limites de ce que la science nous permet de prévoir. Si les calculateurs et si les techniciens et les prévisionnistes savaient que tel ou tel département ou commune allait toucher, ils l'auraient dit. Si c'était possible physiquement. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut effectivement mettre en place des moyens de mesure. Il faut les améliorer, il faut les continuer de les développer. Il faut continuer de développer les moyens d'alerte. Il faut continuer de les financer. Je vous rappelle que Météo France vit une crise sociale. Les syndicats le disent régulièrement. On a certes des technologies, mais il faut des hommes et des femmes pour les mettre en œuvre. Il faut des hommes et des femmes sur le terrain. Donc, chercher des responsables, oui, toujours, mais on a chacun un rôle à jouer, du citoyen jusqu'au chef de l'État.
Sébastien Martin, vous qui appartenez à la même famille politique que David Lisnard, le maire de Cannes, qui a donc appelé à ce qu'il y ait un audit de Météo France, vous l'auriez signé, cette tribune? Vous
faites le même... appartient à la même famille politique, mais... on n'a pas des désaccords parfois.
Faites le même diagnostic que lui ou pas?
J'aurais pas signé cette tribune, d'abord parce que la météorologie n'est pas une science exacte. Ensuite, parce que je pense qu'aujourd'hui, des territoires ont su trouver des réponses. Nîmes, qui a connu en 1988 un épisode catastrophique. Aujourd'hui, il y a un système qui s'appelle le système Espada, avec des capteurs qui sont installés à plusieurs points de l'agglomération, qui mesurent en temps réel quel est le niveau de l'eau et ce qui est en train de se passer. Et les gens, en fonction du quartier où ils habitent, en fonction de ce que disent les capteurs, sont prévenus en amont et peuvent réagir. Et surtout, l'autre aspect, c'est former les gens à se préparer à ce type d'alerte. J'avais l'élu de Nîmes tout à l'heure au téléphone. Un des réflexes, par exemple. Les parents montent dans leur voiture et vont chercher les enfants à l'école. Ouais. C'est le pire des réflexes, parce que vous vous retrouvez avec des voitures plein les rues, l'eau monte et vous pouvez avoir des victimes, alors qu'il faut simplement, en général, quand on est formé à l'école, on met les enfants à l'étage et on préserve les populations.
Amandine Richoulon, est-ce que c'est vraiment uniquement un problème d'investissement dans la prévention des risques ou plutôt d'organisation du système? Est-ce qu'il faut toujours plus d'argent alors qu'on sait que le fonds vert devrait être diminué de plus de la moitié de son budget pour 2025?
Alors, je vais peut-être faire une réponse un peu générique, mais dans tous les cas, quand il y a l'urgence climatique dans laquelle on est, je pense qu'il n'y a jamais assez de financement.
Vraiment?
Parce que,
c'est une question d'argent.
Pas que. Pas que, mais il y a déjà aussi une question de prise de conscience, parce qu'on le voit encore, hein, si on diminue des budgets, c'est bien qu'on se dit qu'il y a peut-être encore un manque de prise de conscience, donc ça c'est essentiel. Il y a un changement des narratifs aussi et des imaginaires, hein. On ne pourra pas vivre demain comme on a vécu hier et comme on vit aujourd'hui, et ça, il faut vraiment l'entendre. Et après, oui, sur les questions de financement, là où il va y avoir un problème, c'est sur les assurances, sur les indemnisations, le fonds Barnier qui date de 94, entre 94 et juste sur les inondations, hein, et 2019, ça a été 14 milliards, donc en plus de 10 ans, 15 ans, et sur les prévisions pour les assurances que inondations, on est sur du 55 voire 60 milliards d'ici 2040. Donc dans tous les cas, cet argent, ces financements, ça va être le financement de la réparation, alors que le financement de la prévention et du financement de l'adaptation, parce qu'on peut le faire dès maintenant, effectivement, il faut que ça soit plus important. Les spécialistes disent à peu près 1% du PIB, alors que sur la réparation, ça va nous coûter 5, 7, 8% du PIB. Donc on voit quand même qu'il y a aussi une question là-dessus de réflexion.
Vous allez réagir, mais on va évoquer d'abord avec tous les trois et avec Anna le fait que, du fait de ces inondations et de ces phénomènes météorologiques, les collectivités territoriales vont avoir de plus en plus de mal à s'assurer et ont déjà du mal à s'assurer.
Selon l'Association des maires de France, 10% des 35 000 communes françaises se trouvent déjà en difficulté pour s'assurer. Les événements climatiques de 2023 ont entraîné des dégâts que les assureurs ont dû prendre en charge. Et si on ne prend que les inondations, eh bien c'est un coût supplémentaire d'1 milliard d'euros par rapport à l'année dernière et l'année n'est pas terminée. Et avec la recrudescence de tous ces événements, eh bien les assureurs ne veulent plus prendre autant de risques. Résultat, certains ont donc résilié leur contrat de manière unilatérale avec les communes. Communes qui ont donc été contraintes de s'assurer à l'étranger, au Japon, aux États-Unis ou en Allemagne. Et d'autres assureurs ont fait le choix, eux, d'augmenter la facture, c'est-à-dire avec des primes multipliées par 4 et des franchises exorbitantes qui viennent plomber le budget des collectivités à un moment où le gouvernement leur demande en plus de faire des efforts. Florence Lutzmann, la présidente de France Assureurs, confirme ces augmentations générales de tarifs. C'était dimanche au micro de France Info. Mais elle demande aussi à l'État de faire sa part en augmentant le fonds Barnier, vous en parliez, qui finance les mesures de prévention des catastrophes naturelles.
Arrêtons le hold-up sur le fonds Barnier. Ça devrait représenter à peu près 450 millions d'euros pour 2025. Et là, aujourd'hui, on ne retrouve que la moitié, 220-225 millions d'euros. Et ça, c'est insupportable.
Comment vous allez faire alors ?
Ah ben, on dénonce. J'espère bien que cette succession d'événements exceptionnels, je crois, va nous aider à convaincre à la fois le gouvernement et les députés.
Sébastien Martin, vous êtes d'accord avec elle, l'État devrait participer financièrement à la prévention et à la gestion, à la réparation des catastrophes naturelles ?
Le fonds Barnier, il est ancien. Le fonds vert, il est venu s'ajouter à ça. Je vous confirme que les coûts des assurances ont effectivement augmenté pour les raisons climatiques, mais pas que. Il y a aussi eu une flambée des coûts des assurances après la flambée qu'on a connue de violence l'été dernier qui a fait qu'on a vu certains territoires avoir des hausses de leurs cotisations d'assurance. Mais vous savez, moi je suis dans un territoire qui a connu un épisode, deux épisodes successifs en 2015 et 2016. Le fonds vert n'existait pas à l'époque. On a fait une étude, on a modélisé tout notre territoire, ça a coûté 400 000 euros à l'époque, en numérique, pour pouvoir voir justement quel était l'impact de pluie très importante, parce qu'on a un territoire viticole,
la Saône-et-Loire, qui a des coteaux,
la Saône-et-Loire. Et à partir de ça, on a mobilisé toutes les communes, on a engagé 3 millions d'euros de travaux, et qui ne sont pas toujours, je tiens à le dire, c'est pas que du béton la solution. La
solution, parfois, c'est
par rapport à l'artificialisation des sols. Non, mais quand on fait un bassin de rétention, ce n'est pas vraiment l'artificialisation des sols. Mais le sujet où parfois remettre simplement un cours d'eau dans son lit naturel, recréer des méandres aussi qui participent au retour de la biodiversité, ça va ralentir les cours d'eau, ça va ralentir les effets d'inondation et donc avoir en aval un impact moins important.
Dans l'instant, Gaël Musquet, est-ce que ça veut dire qu'il faut, avant de procéder à ces aménagements, qu'il va falloir évacuer des populations ? Est-ce qu'il va devoir procéder à des expulsions ? Parce qu'on est trop pressé par le temps et que les catastrophes arrivent trop vite.
Bien sûr, dans certains territoires, des mesures de correction vont suffire. D'autres, construire ça et là, déconstruire ça et là, ça va suffire. Dans d'autres territoires, Chrissy-La Chapelle, 28 arrêtés de catastrophes naturelles en 42 ans.
En Seine-et-Marne.
C'est en Seine-et-Marne.
Annonay, 12 arrêtés de catastrophes en 42 ans. Donc vous savez, l'ancien monde, c'est peut-être qu'on l'a oublié, mais nos anciens avaient prévu. Vous avez parlé de M. Barnier, il était ministre de l'écologie en 95. C'est lui qui a l'origine de ces fonds-là. Et il ne le fait pas juste parce qu'il faut le faire. Il le fait parce que depuis 1946, notre pays a consacré dans sa constitution, et même c'est un droit fondamental, les droits de l'homme, chaque être humain a droit à la sûreté. Et quand on relit la constitution, il faut bien avoir en tête que la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. Ça, c'est 1946. On est en 2024. Il faudra effectivement de l'argent. Les fonds Barnier, c'est une solution. Mais on a des exemples. L'archipel de Miquelon, l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, le village de Miquelon va être déplacé. Ça va mettre 4, 5, 6 mandats de maire.
Submersion marine.
Voilà, 4, 5, 6 mandats de maire, mais ce maire aujourd'hui qui s'engage, il engage 2, 3, 4 générations.
Il faudra arriver à ça aussi parfois, sur le territoire, dans l'Hexagone.
C'est déjà prévu, vous avez ce qu'on appelle le recul du trait de côte.
L'érosion du trait de côte.
L'érosion du trait de côte, mais c'est aussi lié au dérèglement climatique. Aujourd'hui, j'étais à Fécamp. Il n'y a pas longtemps, à Fécamp, il y a un certain nombre de maisons qui vont être démolies. Mais de toute façon, il faut les démolir.
Sinon,
les gens doivent partir parce que de toute façon, sinon ils vont tomber dans la mer.
Est-ce que vous arrivez à convaincre des maires de ne pas construire dans des zones inondables ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais vous, sur le terrain ?
Non, mais il faut voir qu'aujourd'hui, je pense qu'on paye aussi les conséquences d'un urbanisme qui, pendant des années, d'abord n'a pas été pensé collectivement et n'avait sans doute pas des règles qu'on est capable d'avoir aujourd'hui.
Amandine Richaud-Crombe, vous corroborez ce que dit votre voisin ?
Dans le code de l'urbanisme et dans le code de l'environnement, les questions des zones inondables, c'est inscrit depuis vraiment plus de 40 ans. C'est des choses où, en plus, avec encore, ça a été renforcé dans les années 2000. Donc,
vraiment, les communes qui n'ont pas de commun d'urbanisme, qui ont des cartes communales.
Je parle du code de l'urbanisme, je ne parle pas de cartes, ça, puisque après, ce n'est pas une question de PLU ou autre, donc de plan local de l'urbanisme, c'est aussi ce qu'on appelle des plans de prévention industrielle ou inondation. Et là, c'est une question préfectorale. Cependant, il faut bien avoir en tête que ça fait des décennies qu'on construit dans ce qu'on appelle des lits majeurs, donc des zones qui sont inondables, des infrastructures de transport, mais aussi des habitations. La faute à qui ? La faute à l'étalement urbain permanent, la faute à l'imaginaire aussi du pavillonnaire qu'on a vendu et que ça a été vendu depuis les années 70, où il y a vraiment cet imaginaire d'une meilleure vie qui est dans une maison et un jardin.
Le fameux pavillon.
Voilà, mais c'est pas la faute aux gens.
C'est pas la faute aux gens.
Et il y a aussi, on a laissé faire. Il faut avoir en tête. Donc, ce qui a été dit, on a endigué la nature, on l'a modifiée, mais en plus, donc, on l'a asséchée. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les lits mineurs, c'est là où les cours d'eau s'écoulent naturellement, et les lits majeurs, c'est les zones tampons de débordement. Mais ça, on les a asséchés. On a construit là parce que on a permis de construire parce que c'est du foncier qui est moins cher.
Alors, ça pose la question de l'artificialisation des sols. Comment ça se fait, Sébastien Martin, qu'on n'arrive pas à avoir un consensus politique, y compris et beaucoup dans votre famille politique, sur le projet ZAN, zéro artificialisation nette, qui va être mis en question ? C'est-à-dire construire, ne plus bétoniser.
Oui, mais bien sûr.
C'est le Premier ministre qui l'a dit lui-même dans son discours politique général.
Non, mais moi, j'essaie quand même d'être cohérent. On ne peut pas dénoncer matin, midi et soir les conséquences de la transition écologique et dire qu'il ne faut rien changer.
C'est ce qu'avait dit Laurent Wauquiez.
C'est ce que dit Laurent Wauquiez, mais ici, Laurent Wauquiez, là, vous avez Sébastien Martin. Il est moins connu, je suis d'accord. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire ce que je pense, moi.
Gagne ou change.
Et ce que je pense, moi, c'est qu'on a l'obligation de la cohérence et l'obligation aussi d'agir par rapport à ce que l'on voit et les choses, comment elles se passent. Et les choses, comment elles se passent, c'est qu'effectivement, on a des phénomènes de plus en plus violents. Et que, par ailleurs, on a aussi eu... En termes urbanistiques, on a parlé de la France des villes moches, enfin des entrées de villes moches, et tout ça, c'est les conséquences de l'étalement urbain. Donc on est tous d'accord avec ça, et il faut le changer.
D'accord avec le constat.
Après, il y a des coins où des toutes petites communes rurales ont eu le sentiment, à travers le ZAN, qu'elles n'allaient plus pouvoir rien faire et qu'elles allaient mourir. Voilà. Mais une fois qu'on a mis ça de côté, aujourd'hui, on fait des plans locaux d'urbanisme intercommunaux dans lesquels il y a des trajectoires de sobriété foncière qui s'inscrivent et dans lesquels on repense les choses. Mais je veux aussi dire, vous savez, moi, il y a 20 ans, on a refait la place de l'Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône. Et on était conseillés par des urbanistes, des architectes. C'était tout minéral. Et puis, il y a un an, je suis allé dans un congrès d'urbanistes, on a dit plus de minéral que du végétal. On va tous prendre notre part, tous, on va tous prendre notre part, faire tous notre mea culpa et essayer de faire autrement, ça me semble plus intéressant.
Alors, on va revenir avec l'archive. Un droit de suite, en fait, France 3 est allé voir en 92 ce que la ville de Saintes en Charente-Maritime était devenue. Elle avait été touchée en 82 par de fortes inondations. Regardez.
Les crues de la Charente à Saintes sont courantes, deux au cours du siècle furent exceptionnelles. En 1904 et surtout en 1982, un mois avant Noël, où le niveau de l'eau monta pendant 15 jours de 2 cm par heure pratiquement sans interruption. Immédiatement après la décrue, la municipalité prit un nombre important de mesures techniques. Une nouvelle station de pompage fut construite à un point élevé de la ville, la plupart des transformateurs électriques furent relevés d'1,50 m et surtout, à l'initiative du ministre des risques majeurs d'alors, Haroun Tazieff, Saintes fut l'une des premières villes en France à mettre en place un plan d'occupation des sols adapté aux risques d'inondation. Le plus spectaculaire a sans doute été le rehaussement de tout un quartier.
C'était il y a si longtemps, Gaël Musquet, mais ça veut dire quoi? Qu'il va falloir surélever nos équipements publics, nos maisons, comme ça se fait déjà à Nouvelle-Orléans, aux États-Unis? C'est ça qui nous
Alors, les collectivités, les personnes qui auront les moyens le feront.
Oui.
Pour le reste, il va falloir parfois faire le deuil de tout ou partie de certains territoires. Et ça ne se fait pas sur un mandat de maire. Et sur plusieurs mandats de maire, il va peut-être falloir expliquer, discuter, amener la
population. Ça se fait dans la douleur.
Tout à fait. Mais ça se fait dans le temps. On ne peut pas juste sur des coups de menton à chaque fois qu'on a une catastrophe naturelle. Je vous rappelle qu'il y a un an, on était en train de parler d'exactement l'opposé. On était en sécheresse, 83 départements. C'est du temps long et nos anciens nous l'ont appris, nous l'ont montré. Ils ont pris le temps d'observer, ils ont pris le temps de créer des fonds pour pouvoir passer au travers de ces crises-là. On a pensé que ça allait changer grâce à la technologie, il faut avoir l'humilité, comme le font beaucoup d'habitants en Outre-mer, de faire le deuil et de se déplacer.
Il faut avoir en tête aussi que les solutions, donc on va parler des solutions d'adaptation, qui sont là sur les inondations, qui sont de justement enlever le béton, enlever le bitume, remettre des sols et des plantations, ça marche non seulement pour l'inondation parce que ça permet d'absorber l'eau, mais ça marche aussi pour les canicules parce que ça permet de rafraîchir l'air. Et donc c'est souvent les mêmes adaptations, en tout cas pas complètement.
Oui, mais les urbanistes ne le disaient pas à l'époque, visiblement. Donc c'est ça qu'on comprend.
On a progressé.
Mais tout le monde change, c'est bien.
Peut-être, oui, mais je veux dire, ça fait 20 ans que je fais ce métier et que je suis dans l'écologie urbaniste. Je tiens le même discours et depuis 7 ans sur ces plateaux-là. Donc je répète la même chose. Donc oui, il y a peut-être un peu de temps, mais là, aujourd'hui, il faut arrêter de prendre du temps. On est dans une urgence climatique et on est dans une urgence d'action.
Ça veut dire que vous allez devoir prendre des solutions radicales, Sébastien Martin, pas uniquement des aménagements.
Il ne faut pas agir vite juste pour répondre à l'émotion. C'est ça qui est terrible. Parce que, effectivement, quand on est dans des situations comme celle-là, les gens se tournent vers les élus et disent « qu'est-ce que vous faites? On veut des réponses demain ». Sauf que, si je reprends encore l'exemple de Nîmes, ils ont mis 20 ans pour arriver à faire ce qui fait que la semaine dernière, quand c'est tombé, il n'y a pas eu d'inondation.
Mais vous n'avez plus 20 ans.
Nous, on a mis 2 ans pour faire les études de modélisation sur un petit territoire, pour faire les études de modélisation. Et depuis 2019, les communes ont engagé des travaux et ça commence à être efficace. Mais il y a un moment, il faut commencer, il faut s'y mettre. Et je pense que pour essayer de tous nous mettre d'accord, le sujet, c'est certes les moyens, mais c'est avant tout la volonté de s'y mettre.
Bon, vous semblez l'avoir. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.